Paso doble.
Paso doble.
Mercredi, cinéma.
Bonjour Reda Kata.
Bonjour Tufi Kakin.
Enfin, le film est sorti depuis le temps que vous parlez de ce film, Django, Être dans la peau de Django Reinhardt. Ça y est, le film est sorti. Pourquoi ce film vous tenait à cœur d'ailleurs ?
Alors, j'étais dès le départ fasciné par Django Reinhardt. Je le connaissais assez peu, j'avais entendu certains de ses morceaux. J'avais vu aussi le film de Woody Allen avec Sean Penn qui se prend pour Django, mais c'est un peu un Django de pacotille, quoi. Il y a quelque chose de dérisoire chez lui. Et puis j'avais en tête une espèce d'image un peu floue d'une photo où Django tient sa cigarette avec sa moustache fine et regarde vers l'objectif avec un regard qui tout de suite me racontait beaucoup d'histoires dans lequel il y avait à la fois une légèreté mais aussi une gravité, à la fois une douceur et quelque chose d'animal, de sauvage. J'étais déjà dès le début sous le charme de ce mythe, de cet artiste.
Mais le fait que vous soyez vous-même musicien, ça vous a pas donné envie justement de retrouver cet amour que vous avez pour la musique? Vous avez été très longtemps musicien avant de vous lancer dans le cinéma. Et donc quand Étienne Comard vous a proposé ce film, vous avez tout de suite pensé à qu'est-ce que je pourrais faire avec la musique, avec les instruments de musique pour me glisser dans la peau d'un musicien légendaire?
Oui, bien sûr. En tout cas, c'était. Je peux pas dire que je suis musicien parce que je suis mélomane avant tout. J'aime la musique, mais jamais j'ai pratiqué professionnellement la musique. Et pour moi,
vous avez vu sur scène quand même un peu.
Oui, mais vraiment presque timidement, j'ai envie de dire. Et pour jouer Django, il n'était pas du tout question que ce soit timidement. Il fallait rendre ce personnage dans toute sa flamboyance et toute cette chose extrêmement affirmée qu'il avait. Bon, la première chose, c'est que j'ai aimé le scénario. Il y avait évidemment l'idée du personnage de Django, mais très rapidement, j'ai rencontré Étienne Comard. Il m'a donné son scénario, je l'ai lu d'une traite, et ce rôle s'est imposé à moi. Ce que je disais à Étienne, c'est que c'était pile le genre de personnage que je cherchais. Je cherchais un personnage qui me sorte du quotidien, un personnage qui me demande de faire un vrai travail de préparation, parce que j'aime la préparation. Et comme vous le dites, un personnage dans lequel il y avait un grand travail à faire sur la musique. Et ça, pour moi, c'était une aubaine de passer un an à jouer de la guitare et à le préparer.
Voilà, et puis le film qui sort aujourd'hui, il sort dans une période très très particulière. C'est un film politique ou c'est un film qui devient politique parce que voilà, il sort aujourd'hui après ce premier tour des élections françaises présidentielles. D'ailleurs, comment qualifieriez-vous ces élections, Reda Kateb, fantasques, incroyables, révoltantes? Est-ce que vous avez vécu des moments de doute, des moments de peur, anxiogènes, ou au contraire, tout cela participe à une envie de vous impliquer, de vous battre, de dire que tout est à rejouer sans cesse, chaque fois?
Par rapport aux élections, franchement, je vis ces élections avec un sentiment de quelque chose d'assez nauséabond, quelque chose qui manque de rêve pour moi, qui manque de souffle, qui manque d'élan et d'envergure. Et je suis d'une génération qui a toujours voté par défaut pour éviter le pire. Et cette chose s'ancre de plus en plus et c'est pas ma vision de la politique et c'est pas ce que j'attends de ceux qui nous gouvernent. Donc voilà, tout en étant citoyen et sans me voiler la face sur le monde dans lequel je vis, j'ai plus d'intérêt pour les gens que je vois autour de moi dans la rue que pour ceux qui nous représentent. Mais malgré tout, j'exerce mon droit de vote de citoyen, mais avec peu d'idéal finalement. Et comme vous le dites, ce film de Django nous parle d'une époque de la Seconde Guerre mondiale, d'une époque trouble et a des résonances très très fortes avec aujourd'hui, mais aussi dans un bon sens, c'est-à-dire que la semaine dernière, on était dans l'Est de la France, on a présenté ce film à Forbach, là où pour moi l'histoire a un peu commencé, puisque j'ai participé au casting en allant voir des gens de la communauté manouche de là-bas, chez eux, dans une espèce de camp un peu retranché, avec des maisons auquel il manque que des roues pour que ce soit des caravanes. Et quand on a présenté le film dans le multiplex, là où on avait notre projection, j'avais en face de moi un public dans lequel il y avait des gens du voyage, des Français dits de souche, des Arabes, des Africains, dans un lieu où le Front National fait des scores extraordinaires, le fief de Florian Philippot. Et en voyant ce public-là et en partageant ce moment-là avec les gens, je me suis dit que la musique et le cinéma étaient peut-être des moyens de relier les gens entre eux et de leur apprendre à nouveau à passer du temps ensemble et à être partagés par des émotions communes, beaucoup plus que finalement tous les discours que j'ai entendus dans cette campagne.
Jusqu'à quand et jusqu'à quel point? C'est aussi l'objet du film d'Étienne Comard, Django, parce que dans le film, les nazis sont là et ce musicien qui est Django essaye jusqu'à la dernière minute de se tenir à distance des politiques, des événements, mais on voit bien que dans ce film, il ne peut pas.
Non, c'est vrai, le film n'est pas un biopic, donc raconte 2 ans à peu près de la vie de Django, 44-45, et c'est un moment où lui est au sommet de son art, où il joue devant les officiers allemands qui viennent écouter sa musique, et où finalement, par la force des choses et aussi dans l'intime, il va devoir partir se réfugier. Et le film raconte aussi l'histoire d'une famille de réfugiés, de gens qui quittent leur maison pour vivre, tout simplement. Et c'est l'histoire d'un homme qui va ouvrir les yeux sur le monde qui l'entoure. Moi, je le comprends. Je le comprends parce que on parle souvent de cette chose où les Allemands viennent l'écouter et où il joue devant eux comme une espèce de compromission. Or, si je fais une comparaison toute simple, moi, les films dans lesquels je joue, le public n'est pas filtré à l'entrée et il doit certainement y avoir des gens peu recommandables qui viennent regarder les films dans lesquels je joue. La musique de Django, il a refusé de la travestir, de la changer, de la plier au code de la musique aryenne. Et finalement, dans sa musique elle-même, pour moi, il y a un souffle de liberté et d'humanisme qui dépasse beaucoup de discours.
Et surtout, il refuse d'aller en Allemagne pour chanter devant des dignitaires nazis et devant Hitler.
Oui, c'est vrai. C'est ce qui fait son exil et c'est ce qui fait que d'un coup, il va se rendre compte de ce qui se passe autour de lui. On lui propose ou on lui impose une tournée en Allemagne. Beaucoup d'artistes français, de vedettes de l'époque se sont prêtés à ce jeu-là. Il y a eu un train qui a emmené Viviane Romance et d'autres à Berlin pendant l'occupation. Et là, c'est la ligne que lui ne va pas franchir. En plus, comme Zigan, à un moment où ses frères Zigan étaient déportés, il faut voir aussi que les Zigan n'ont pas attendu la guerre pour être malmenés par l'histoire, et l'ont été encore après. Le génocide Zigan a été reconnu en 2016 seulement par la France. Donc voilà, c'est l'histoire d'un homme qui va retourner vers ses racines, qui va retourner matériellement dans une vie toute simple, celle des roulottes, de jouer dans un petit bar après avoir connu la gloire, et qui va, je pense, finalement, que plus le film avance, plus on taille autour du noyau pour arriver à un personnage qui tombe le costume, en même temps qu'il s'est rendu compte de ce qu'il y avait autour de lui.
Reda Kateb, il y a très peu d'archives, de films avec Django Reinhardt, beaucoup de photos. Vous êtes basé sur quoi, mis à part le scénario, pour travailler ce rôle, pour être dans la peau de Django Reinhardt?
Pour moi, c'était une très bonne chose qu'il y ait peu de matériel filmé, peu de matériel vidéo ou sonore. Ça m'a permis de ne pas faire un travail d'imitateur, de ne pas passer mon temps à chercher à ressembler à tous les tics, à tous les traits réels de Django Reinhardt, mais au contraire d'être à la fois fidèle à pas mal de choses extérieures de lui, et en même temps à le considérer presque comme un personnage de fiction, en imaginant beaucoup plus qu'en reproduisant ou en imitant. Et ensuite je me suis basé sur un travail très concret qui était celui de la guitare, avec la patine qui vient petit à petit, la corne sur les doigts, et je peux dire que je me suis accroché à trois doigts à mon manche de guitare pendant un an, pendant le temps où a duré la préparation.
Je me suis posé la question si vous n'étiez pas doublé, si vos doigts n'étaient pas doublés durant le film.
Vous voulez dire dans les gros plans ? Alors si vous voulez absolument savoir ce qu'il y a dans le chapeau du magicien, je peux vous le dire. À certains moments, lorsqu'on est en gros plan total sur la main, c'est un musicien à qui je rends hommage qui s'appelle Christophe Lartilleux, qui depuis son enfance, a d'abord avec son père, puis lui aussi par la suite, a développé un jeu à trois doigts pour se rapprocher vraiment de l'origine du jeu de Django. Qui est voilà quelqu'un qui est plus un passeur, qui est plus un quelqu'un qui transmet une mémoire qu'un musicien qui cherche à performer par lui-même, et donc c'est lui qui m'a doublé pour certains gros plans, et dès qu'on n'est pas uniquement en gros plan sur la main, c'est moi à l'image.
Vous avez beaucoup écouté, je suppose, Django Reinhardt. Comment vos oreilles d'aujourd'hui, comment vos oreilles à vous, Reda Kateb, analysent, apprécient cette musique ? Qu'est-ce qu'elle vous évoque ?
Cette musique, elle est universelle, elle est intemporelle. Elle trouve ses racines aussi bien au Rajasthan, l'origine du peuple Digan dans le nord de l'Inde, mais aussi dans le ragtime, dans l'histoire des esclaves, aux origines du jazz, dans tout ce melting pot qui fait de Django un citoyen du monde, dans qui il était et dans sa musique elle-même. Et finalement, c'était un homme qui était peu doué pour le langage, il parlait peu, souvent un peu maladroitement, avec quelques belles sorties quand même. Mais ce qu'il avait à dire, il le disait avec sa musique, sans bavardage, en étant juste dans ses notes et dans ses silences. Et quand je pense à la musique de Django, j'ai aucun autre exemple finalement de musique qui peut exprimer une telle variété de sentiments. L'ironie, le blues, l'amour, le dépit, l'excitation, une franche rigolade, l'inquiétude. Et toutes ces choses-là, c'est dans sa musique qu'il le disait.
Avec Reda Kateb pour la sortie du film Django d'Étienne Komar. On n'écoute pas la musique de Django, on écoute une réinterprétation de sa musique dans le film.
Oui, alors c'est Stokelo Rosenberg qui a enregistré les scores du film, qui pour moi est l'un des meilleurs guitaristes de jazz manouche aujourd'hui et qui a vraiment relevé le flambeau de Django dans la justesse de sa musique et dans la justesse aussi des silences autour des notes. Parce que beaucoup de gens se basent uniquement sur le virtuosisme de Django, la rapidité avec laquelle il peut enchaîner les notes, et on peut vite tomber dans la démonstration, dans quelque chose dans lequel la magie s'effondre derrière les intentions, derrière la volonté de performer. Et chez Stokelo, Rosenberg, il y a cette chose-là, d'avoir une musique qui a sa propre palpitation, sa propre vibration, comme un être vivant.
Jazz manouche, ça existe depuis Django Reinhardt, cette appellation. Est-ce qu'on doit dire d'ailleurs jazz manouche ? Est-ce que vraiment le jazz, quand il est pratiqué par les gitans, c'est un jazz à part ?
En tout cas, c'est comme ça qu'on se met d'accord pour trouver un disque dans un casier, dans un magasin. Oui, on dit qu'il a inventé le jazz manouche. Il a aussi été le premier à faire de la guitare un instrument de soliste. La guitare était un instrument d'accompagnement avant lui. Et tout ça est parti d'un incendie, est parti d'une blessure. Django, c'était un fameux joueur de banjo. Il commençait à se faire vraiment un nom dans les bals musettes de Paris et de la région parisienne. Et quand il a eu la main brûlée suite à cet accident, lorsqu'il avait 18 ans, tout le monde pensait qu'il ne pourrait plus jamais jouer du banjo. C'est là qu'il a commencé la guitare, avec sa brûlure, allongé sur son lit d'hôpital. Je trouve que c'est magnifique et que c'est une espèce d'exemple d'alchimie, de partir de cette blessure pour inventer quelque chose. Donc on dit que Django a inventé le jazz manouche. Ouais.
Alors Reda Kateb, on le disait en début d'entretien, ce film que j'ai vu il y a quelques semaines dans un festival, c'était juste du plaisir et on parlait que de musique, de Django Reinhardt, mais il sort dans une époque marquée par le politique, avec des résonances avec le film, même si les époques sont très différentes, on retrouve les mêmes problématiques, et puis surtout, il sort deux semaines après un film qui a fait couler beaucoup d'encre, cette comédie de Philippe de Chauvron à bras ouverts, où tout le monde dit que jamais on a présenté des gitans, des Roms de cette manière-là, c'est-à-dire d'une manière raciste, en enchaînant tous les clichés les plus désobligeants. Est-ce que cela veut dire que le cinéma, qui était un rempart contre le racisme, commence lui aussi à céder?
Non, je pense que le cinéma, depuis ses origines, a par moments été utilisé comme un instrument de propagande raciste, et que derrière les caméras, finalement, il y a quoi ? Il y a les yeux des gens et les points de vue de ceux qui nous donnent à voir quelque chose. Et je pense que les spectateurs peuvent très vite sentir lorsqu'on est dans un film qui va nous grandir ou qui va nous rabaisser. Et ça, moi, je fais confiance, je continue de faire confiance aux gens pour ça. Et je fais confiance aussi à mon instinct de ne jamais travailler avec des gens qui ont un rapport cynique à la chance qu'ils ont de pouvoir donner à voir.
Et pourtant, les comédiens de ce film cité, et que je ne vais pas reciter, ces comédiens, on peut pas les condamner d'avance, mais c'est comme pour Django. Est-ce qu'un artiste, il est obligé de savoir ce qu'on va faire de son art? Est-ce que il doit faire attention à comment on peut l'utiliser aussi? Parce que ça fait partie des problématiques développées dans le film d'Étienne Comard.
Oui, complètement. En tout cas, si vous me demandez, moi, personnellement, je n'ai pas besoin que chacun de mes films ait une teneur politique. En revanche, je ne pourrais pas travailler avec quelqu'un et dans quelque chose avec lequel je me sente en désaccord. Je ne pourrais pas. Donc c'est un des filtres par lesquels je choisis les projets sur lesquels je travaille. Je pense que les acteurs ont une forme de responsabilité, même s'ils ne sont que interprètes, à donner vie ou pas à des choses. Et à incarner ou pas certaines histoires. Moi, j'essaye d'être avec des gens dont la caméra veut du bien aux gens. Ça veut pas dire qu'ils présentent leur personnage de manière forcément aimable, mais ça veut dire que cette chance qu'ils peuvent avoir de montrer des choses aux autres, ils ne l'utilisent jamais en se mettant de haut par rapport aux gens qui vont venir voir leur film, et ils ne l'utilisent jamais pour les manipuler.
Voilà, pour Django, le film qui sort aujourd'hui, le film d'Étienne Comard et d'Akadeb, c'est la deuxième fois qu'on se voit cette saison. La dernière fois, c'était pour le film de Wim Wenders. Ça veut dire que vous n'arrêtez pas de tourner. Pour nous, c'est un plaisir, hein. Mais pour vous, cette envie de tourner, ça correspond à quoi en ce moment? C'est cette envie de changer des univers, de ne pas louper une occasion? Parce que quand on propose un film où vous vous glissez dans la peau d'un musicien exceptionnel et de talent, ou quand un grand metteur en scène comme Wim Wenders vous demande, je suppose que c'est dur de dire non.
Oui, en tout cas, je ne dis jamais non quand je me pose pas la question, quoi. C'est-à-dire que voilà, je dis très souvent non, et il se trouve que là, ça fait quasiment un an que je n'ai pas tourné de film, donc le timing du cinéma fait que les choses sortent à rebours.
Ça vous manque ?
Plus je fais de la promotion, plus j'ai envie d'endosser un costume et de tourner à nouveau. Non, je pourrais pas dire que ça manque. Au contraire, j'avais envie de faire respirer un petit peu les choses. Je me vois pas à vivre. Vous savez, un tournage, c'est un peu un champ de bataille, et on donne beaucoup, et on a besoin à certains moments de se ressourcer, de prendre et de vivre pour retourner à nouveau à la bataille.
Merci Reda Kateb.
Merci à vous.